Radio Cranciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois le docteur Bénédicte Fabre. Après un cursus à Montpellier dans la spécialité hématologie, elle se marie et décide de faire des études d'homéopathie. Elle est donc homéopathe à Chartres et nous sommes très heureux de la recevoir pour nous expliquer pourquoi elle a choisi cette voie, pourquoi l'homéopathie. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer en quelque sorte où on peut rencontrer d'autres homéopathes. Bénédicte Fabre, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors peut-être pour nos amis auditeurs qui ne vous auraient pas rencontré les premières fois, faites-nous une petite introduction sur l'homéopathie. D'abord, quand a-t-on découvert cette médecine et par qui ?
L'homéopathie vient du mot grec homéios qui veut dire semblable et pathos qui veut dire désordre ou maladie. Cette médecine a été découverte par le docteur Samuel Hahnemann, qui est né en 1785 et qui est mort peu après la Révolution française, qui était médecin de formation et qui a été très vite déçu par la médecine classique. Et il a eu l'idée extrêmement brillante de prendre un peu de quinquina et il s'est rendu compte que cette quinquina chez lui entraînait des symptômes, fièvre, soif, et accès de frissons glacés. Et il a eu l'idée lumineuse de donner cette quinquina à un homme malade qui avait ses symptômes. Voilà comment est partie l'homéopathie, donc semblable parce que c'est la loi de la similitude, ou, qui je le redis en d'autres mots, toute substance capable de déclencher des symptômes chez un sujet sain est capable de guérir un malade qui a ces mêmes symptômes.
C'est
la loi de la similitude. Il a ajouté deux choses, comme les substances qu'il utilisait à l'état pur avaient des effets secondaires importants, il a eu l'idée de diluer ces substances à des doses infinitésimales, ensuite de les dynamiser, c'est-à-dire de les secouer et de le donner au malade. C'est là où intervient cette fameuse mémoire de l'eau. Qu'en penser ? Beaucoup de mal selon les médecins, beaucoup de bien parce que ça existe chez les physiciens. Et en fait,
c'est intéressant, justement, sur le plan physique. Expliquez-nous cette loi qui permet de voir que l'eau peut avoir gardé la mémoire d'eux.
Je ne suis pas très au courant, mais je sais simplement qu'un physicien nous avait expliqué à un cours d'homéopathie que c'était basé sur la loi physique quantique avec des ondes et que la substance homéopathique, la mémoire de cette substance, était fixée, je ne sais plus par quelle étude, sur ces ondes quantiques et donc l'information du remède était transmise de l'eau qui avait touché cette substance.
C'est
donc une mémoire de l'eau qui va stimuler l'énergie vitale de la personne et lui permettre de combattre les symptômes dont il souffre.
Voilà, je crois que nous avons bien compris ce qu'était l'homéopathie et comment on soignait par l'homéopathie les malades qui venaient vous voir. Alors, ce que je voudrais aussi que vous nous disiez, peut-être que quand vous rencontrez un malade, est-ce que vous allez seulement le soigner par l'homéopathie ou vous allez peut-être d'abord discuter avec lui pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus profond. Parce que vous nous disiez au cours d'une émission précédente que quand le corps est malade, c'est que l'esprit n'est pas très bien.
Vous touchez là ce qui nous différencie beaucoup des médecins allopathiques, c'est-à-dire des médecins classiques, pour qui, eux, nous avons appris à la fac de médecine que une maladie était faite de symptômes. J'ai mal au ventre, j'ai de la fièvre, j'ai des nausées et j'ai mal à droite, j'ai donc probablement une appendicite. On va me faire une prise de sang pour voir si les globules blancs sont augmentés. Ils sont augmentés et je vais être opéré et on va m'enlever cet appendice malade. Un homéopathe, lui, va dire pourquoi j'ai mal à ce moment-là à cet appendice, qu'est-ce qui s'est passé avant pourquoi elle est inflammée et on ne va pas forcément avoir besoin d'être opéré. On essaie de voir où est déréglée la force vitale et non pas de s'attacher aux symptômes qui sont déjà trop tard dans la genèse de la maladie. Je ne sais pas si je suis très claire.
Oui, oui.
Pour cela, on a à notre disposition 2000 remèdes que depuis des générations, on a expérimenté sur des adultes sains. Ces remèdes appartiennent aux reines animales, par exemple un venin de serpent ou une abeille ou une araignée, de l'ordre minéral, de l'ordre végétal, et aussi on peut prendre des sécrétions de l'homme humain, comme par exemple un bacille tuberculeux ou autre chose. Et nous étudions tous ces éléments sur des personnes bien portantes qui vont développer un certain nombre de symptômes qui sont répertoriés dans un livre que l'on appelle la matière médicale où tous les remèdes sont expérimentés. Donc on a une liste de symptômes qui doit, entre certains remèdes, ça fait 200 symptômes par remède, disons. Ensuite, nous, homéopathes, quand on voit arriver une personne, on va essayer de mettre en adéquation ce que nous dit la personne et ce que nous savons du remède homéopathique. Pour cela, il faut savoir à fond la matière médicale. Et nous avons à notre disposition un répertoire où ont été répertoriés tous les symptômes de chaque substance étudiée. Et on essaye de travailler ça et de trouver un remède qui correspond à la personne. Pour cela, je dois expliquer un peu les différentes tendances de l'homéopathie, parce que il y a, vous savez, l'homéopathie uniciste, c'est-à-dire telle que l'a découvert Samuel Hahnemann, où on donne un remède, puisque ce remède est seul capable de rétablir l'énergie vitale. Particulièrement, moi j'ai appris dans cette école, donc je suis uniciste. Il y a à Paris une célèbre école qui est excellente et qui s'appelle l'INHF, Institut National d'Homéopathie France. Et si vous allez sur leur site, en première page du site, vous allez avoir l'annuaire des homéopathes unicistes dans toute la France et vous pourrez choisir n'importe lequel de ces homéopathes qui aura eu le diplôme de cette école et qui pourra vous recevoir quand vous le désirez. Vous avez téléphone et son adresse. Je répète, sur le site de INHF, il y a un onglet sur la gauche avec liste des annuaires homéopathes unicistes. C'est là où vous cliquez. Donc ça, c'est l'unicisme. La méthode pluraliste, mise au point en particulier et véhiculée beaucoup par le laboratoire Boiron, qui donne plusieurs remèdes pour soigner une personne. Personnellement, moi, je trouve que trouver un remède pour une personne, c'est déjà un travail énorme et je ne vais pas m'amuser à chercher 10 remèdes pour soigner une angine ou un AVC. Donc, je me contente d'un remède. En général, quand on parle d'homéopathie, la question du corps médical, en tout cas, c'est de nous dire comment savez-vous que vous n'êtes pas un effet placebo ? Et ça, je voudrais en parler parce qu'à chaque fois, on nous accuse de faire du placebo. Alors d'abord, pour être très clair, dans chaque médecine, dans chaque façon de traiter, l'effet placebo existe. Oui. C'est connu, il y a 20% d'effets placebo.
Déjà, quand on va voir le médecin.
Voilà.
On expliquait quelquefois que le médecin, quand il était habillé blouse blanche et la chaise un peu plus haute, que déjà le patient ressentait...
Un mieux.
Tout à fait. Ou moins mal. Donc effectivement, dès qu'on va voir le médecin, il y a déjà un effet placebo.
Tout à fait.
Ouais.
Ce qui est très amusant, c'est quand un malade décide de téléphoner à son médecin et de prendre rendez-vous. C'est quand il est au plus mal. Mais ce au plus mal, en général, il touche le fond pour remonter très vite. Donc c'est pas la peine qu'il aille le voir. Il sera guéri.
Voilà. Oui, mais c'est...
Donc l'effet, je vais vous raconter une histoire sur l'effet placebo qui m'a beaucoup marqué. On m'a raconté cette histoire, un psychiatre faisait une expérimentation, un remède d'un laboratoire et c'était un remède qui allait être très prometteur et qui allait guérir absolument toutes les psychoses. Ce psychiatre a donné une de ses malades qui avait une psychose vraiment invalidante parce qu'elle quittait pas son lit. Il lui a donné ce remède pendant 3 mois. En 3 mois, la personne a fait des progrès qui ont subjugué tout le monde. Elle s'est mise à se lever, à retrouver une autonomie. Elle est même sortie de l'hôpital dans un local thérapeutique. Et elle a même repris un travail. Donc on pouvait se dire, ce remède donné par le psychiatre a fait merveille. Seulement, 2 ans après, la chambre de cette personne a dû être refaite complètement. Et on a découvert que sous le fauteuil, elle avait caché et scotché tous les remèdes qui étaient donnés tous les jours par le psychiatre. Elle n'en avait pris aucun. Voilà l'effet placebo du médecin remarquable qui a mis en place ce remède exceptionnel et qui a pu guérir cette personne.
C'est sûr que beaucoup de choses se passent dans la tête. C'est un peu ce qu'on avait dit dans une autre émission. Si la tête, si la volonté est très forte, peut-être qu'on ne tombe pas malade à la limite.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et comment se fait-il aussi que tous les malades qui reçoivent le même traitement, il y en a qui vont réagir parfaitement bien, d'autres ça ne fera à rien, et d'autres vont plonger. Pourquoi ? C'est beaucoup plus ce qui se passe dans la tête de la personne est beaucoup plus importante que l'effet du remède tel qu'il soit. Tel qu'il soit. Ouais. On a vu aussi des expérimentations, on faisait des études en double aveugle, ceux avec chimiothérapie, ceux sans chimiothérapie, il y avait tout de même 3% des gens sans chimiothérapie qui perdaient leurs cheveux au bout de 6 mois.
Non.
Et si. Voilà ce qui est capable de faire l'organisme humain. Donc c'est très fort parce que l'énergie de la personne est capable de faire cela avec ou sans médicaments. Bon. Voilà, donc nous avons parlé de l'unicisme, nous avons parlé de l'école pluraliste. Alors les écoles pluralistes, il y a le CEDS, centre à Paris, dans l'hôpital Saint-Jacques. Voilà, c'est les seuls que je connais. Et vous savez aussi que dans le monde entier, il y a des écoles d'homéopathie.
Oui.
Je parlerai particulièrement de Mazzi, qui est un Argentin, qui est un homéopathe incroyablement érudit et qui, pour les chrétiens, est très intéressant parce qu'il a relu toute la matière médicale d'Hahnemann en parallèle avec la somme de saint Thomas d'Aquin, la somme de théologique de saint Thomas d'Aquin. Et pour lui, alors bon, il faut mettre des bémols à ce que je vais dire, mais pour lui, la maladie vient d'une un peu comme le péché, vient d'une rupture de la relation avec Dieu. Parce que vous savez que chez chaque humain, on en veut à Dieu de ne pas avoir tous les attributs de Dieu. Et chacun va vouloir la puissance, l'autre va vouloir l'argent, l'autre va vouloir le don de guérison. Et on va construire notre souffrance primaire et on va développer dans notre vie certaines maladies, certains comportements qui vont faire qu'on va devenir malade. Alors, c'est passionnant à étudier, mais c'est très difficile à trouver dans un cabinet, à mettre
en pratique
dans un cabinet médical.
Ah oui. Alors, c'est vraiment très, très intéressant. C'est passionnant. Est-ce que vous allez écrire un livre ? Parce que c'est vrai que ce serait vraiment bien. On est vraiment... On vous écoute avec un très grand bonheur. Et...
Non, je n'écrirai pas de livre parce que j'ai toujours la matière médicale à apprendre. On travaille tous maintenant, les jeunes, avec un ordinateur. Oui. Toute la matière médicale et toute la répertorisation est sur un ordinateur et ça m'occupe vraiment beaucoup.
Ah oui.
Non, j'écrirai pas de livre. Ce qui m'intéresse, c'est les personnes.
Bien sûr. Voilà. Eh bien, un grand merci, docteur Favre. Vous avez été absolument passionnante. Et chers auditeurs, sachez que vous pourrez retrouver notre émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci beaucoup, docteur Favre.
Merci, Christine Blanc.